franceinter.fr.
CO2 mon amour, avec l'énergiemoinscher.com, site d'information sur les primes énergie de Leclerc.
Il y a une espèce de crétin qui a inventé un moteur que les gars se foutent dans le dos et puis... Mais en réalité, ça ne ramasse pas du tout les feuilles, ça les balade comme ça, c'est une vraie connerie.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, avec aujourd'hui Pauline Laverdure et Pierrick Monsigné la technique, et assisté de Stéphane Combe, c'est Christophe Humbert qui réalise cette émission. Allez, deux petites humeurs. Nous sommes en 2012, après Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les villes, autoroutes, lignes TGV, aéroports, toutes. Eh ben non, à Notre-Dame-des-Landes, un village peuplé d'irréductibles agriculteurs et de sympathisants résiste encore et toujours à l'envahisseur. Alors cette semaine, on a sorti 500 gendarmes et CRS pour leur faire prendre l'air de la Loire-Atlantique et pour virer les squatteurs vivant sur le périmètre du futur aéroport. Donc on ne rigole plus, on déménage. La filiale du groupe Vinci, aéroport du Grand Ouest, portera plainte en cas d'occupation des espaces libérés. Donc c'est un petit goût de l'Arzac, de Plogoff, du Son-Port. On a vu ces images de gens debout, une poignée de pas d'accord, les mains nues contre le 20e de cavalerie et l'éclairon des médias pour garder leur ZAD, zone à défendre. Le Premier ministre retrouve toute la vigueur dont les médias le disaient privé, en fin de la poigne, et c'est quand même un sacré pays dans lequel on vit et qui veut tout à la fois. La nature et le béton, le silence et les avions, du travail et des loisirs pas chers. Alors état de droit d'un côté, refus d'un projet gaspilleur du vivant de l'autre, le changement d'affectation des sols en tout cas, c'est maintenant. Compensation écologique, qualitative, quantitative, qu'en pense le triton marbré, emblème du lieu de cette compensation, hein, on attend 4 millions de passagers en 2017 que le triton risque de laisser de marbre. Deuxième information, parce qu'en fait, en surface urbaine aussi, là, c'est pas triste et c'est même du frétillon, du croupion. Et oui, déjà, on a tous été moustillés au bord de l'orgasme par la lecture d'un roman porno soft pour mémère anglaise au foyer, que tout le monde s'arrache. Et le canard enchaîné, donc, nous apprend cette semaine que Florence Lamblin, ex-élue verte du 13e arrondissement, qui s'est fait un nom en 8 jours, blanchissait. Oui, comme le poireau, le ver blanchit. En Suisse, c'est toujours beaucoup plus sûr quand on y planque un héritage de ses grands-parents. Mais notre militant a créé aussi un site sur le net de vente de gadgets sexuels. Sexécolo nous apprend donc le canard enchaîné, le plaisir naturellement. Canard vibrant garanti nourri sans OGM, lubrifiant à l'extrait naturel d'écorce de goyave, lingerie bio, sans oublier les incontournables sextoys écolo sans phtalate. Alors on ne précise pas s'il fonctionne à l'énergie solaire, ce qui supposerait de s'en servir que le jour, mais foin de ces grivoiseries faciles. Voyons quand même le côté positif. Pour une fois qu'une élue verte nous parle de plaisir, qu'on n'est pas dans le côté millénariste sur sa colline attendant la fin du monde avec une cravache en cuir naturel de mouton à la main pour nous punir de nos péchés de consommation débridée, eh bien saluons cette action entrepreneuriale. Le plaisir écolo comme la chasse, c'est naturel, pas vrai ? Et au menu de cette émission, eh bien, comme c'est un magazine, nous allons avoir trois sujets. Vous avez entendu la voix de Jean-Louis Fournier tout à l'heure, que notre facétieux réalisateur Christophe Humbert a glissé sur le générique. On le retrouvera à la fin de cette émission avec un ouvrage qui s'appelle « Ça m'agace ». Pourquoi ? Parce qu'il a aussi quelques agacements écologiques, donc c'est tout à fait intéressant. Jean-Louis Fournier, nous avons à nos côtés, avec nous en direct, Rémi Marion. Bonjour Rémi Marion.
Bonjour Denis.
Alors Rémi Marion, vous êtes, on va dire, le monsieur ours blanc. Il y en a quelques-uns, mais quand même, vous êtes photographe, voyageur, conférencier. On vous doit excellent ouvrage qui s'appelle « Les dernières nouvelles de l'ours ». Et en fait, il y a une actualité ours blanc.
Oui, tout à fait. Eh bien, à force de faire des livres et des documentaires, eh bien, il m'est venu l'idée de me monter un colloque sur l'ours polaire, donc avec une petite équipe de l'association Pôle Action. Mmh. On organise lundi et mardi, donc 22-23, à l'Institut Océanographique, le premier colloque sur l'ours polaire, avec les meilleurs spécialistes qui nous viennent de Norvège, du Danemark, du Canada, des Inuits qui viennent du Grand Nord canadien, enfin du beau monde.
Et donc, ça va nous permettre de découvrir et d'en savoir plus sur cet animal. Et une émission, évidemment, ne débute pas sans un personnage que vous connaissez.
Monsieur Pelt, peut-être.
Allez, un très grand voyage aujourd'hui. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
On va découvrir les nouveaux mondes.
Oui.
Et donc aussi des explorateurs qui n'avaient pas forcément l'âme écologie, c'était pas ça, mais en tout cas qui nous ont sacrément ouvert les yeux sur la diversité, le monde.
Oui, parce que jusqu'à la Renaissance, le monde, c'était en gros le monde méditerranéen. Hein, les limites, c'était les forêts sombres de Germanie au nord, c'était l'océan ténébreux et l'Atlantique à l'ouest. À l'est, c'était en gros l'Afghanistan qu'avait visité Alexandre le Grand. Alors au sud, c'était la Libye, parce que toute l'Afrique, c'était la Libye, parce qu'ils n'allaient pas de l'autre côté du Sahara. Enfin, ça, c'était leur monde. Et alors à partir de là, il y a un personnage qui est très peu connu, qui s'appelle Christophe Colomb, vous avez entendu parler.
Oui, oui, un tout petit peu.
Il a débarqué en 1492 sur une île des Bahamas. Il était sponsorisé, comme on ne disait pas à l'époque, par la reine Isabelle de Castille. Alors cet exploit a occulté ce qu'ont fait les Portugais. Bartolomé Dias, 4 ans avant, a longé les côtes d'Afrique et il a été jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Et alors on raconte cette histoire, c'est que tous les jours, il voyait le soleil se lever sur la terre, sur l'Afrique. Puis un beau jour, le soleil s'est levé sur la mer. Alors ils se sont dit, zut, il n'y a plus d'Afrique. Où est passée l'Afrique? Et là, ils ont pu faire le tour. Ils ont fait la première fois un tour jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, qui était à la fin de l'Afrique. Et après...
On a eu Vasco de Gama, après.
Oui, 10 ans plus tard, il a été jusqu'en Inde, lui. Jusqu'à Calicut, qui a trouvé une ville extraordinaire, parce qu'on croyait qu'il n'y avait plus que des sauvages de l'autre côté des océans. Puis après, il y a eu Magellan. Alors lui, il a fait le tour du monde, pas lui d'ailleurs, parce qu'il a été tué aux Philippines. Ils sont partis avec 5 bateaux. Ils sont revenus 2 ans après avec 1 bateau. Pratiquement, ils étaient tous morts. Mais ceux qui n'étaient pas morts ont fait le tour du monde. Et c'était les premiers à avoir fait le tour du monde. Alors vous me direz qu'il n'y a pas beaucoup de Français là-dedans. Oui, alors les Français sont arrivés un petit peu tard dans ces explorations.
C'était quoi, sous Louis XV, non?
Oui, nous avons fait une expédition importante sous Louis XV parce que à l'époque, les Hollandais occupaient l'Afrique du Sud, l'Indonésie, les Anglais occupaient les Indes, et bien nous, on n'occupait pas grand-chose. Alors Louis XV, pour tenir son rang dans la configuration géopolitique, a dépêché une expédition pour faire le tour du monde.
Et là, M. Bougainville entre en action.
M. Bougainville entre en action. C'est lui qui dirige cette expédition. Le botaniste de l'expédition s'appelle Philibert Commerson.
C'est votre grand-père.
Philibert. Ah ben, Philibert a fait une découverte importante. À Rio, il a découvert des arbustes qui fleurissaient de manière admirable. Alors il les a dédiés à Bougainville et c'est devenu le Bougainvillais. Puis il a fait le tour du Cap Horn, qui est très difficile au sud de l'Amérique du Sud. Puis il s'est lancé dans le Pacifique, que Magellan avait intitulé Pacifique parce que quand il y est arrivé, il n'y avait pas une vague. C'est pour ça qu'on l'appelle Pacifique. Et il a découvert Tahiti. Il a découvert Tahiti, c'est pour ça que Tahiti est une possession française. Et à Tahiti, il admire les sauvages. Il est un petit peu dans l'esprit de Rousseau, des fameux bons sauvages. Les bons sauvages leur piquent tout, leurs habits, etc. Mais les bons sauvages font une importante découverte, et c'est ici que l'histoire devient intéressante. Ils découvrent que le valet de chambre de Commerson...
Donc le botaniste.
Le botaniste, oui. C'est une femme. Parce qu'il les met à poil, les navigateurs, les uns après les autres. Alors le valet de chambre, qui était déguisé, parce qu'il ne pouvait pas monter sur un bateau sans être un homme. Et c'était en fait une gouvernante qu'il avait, le Commerson. Donc il l'avait déguisé en homme. Bon. Et c'est comme ça qu'ils ont vu que ce n'était pas un homme. Donc c'était une femme, elle s'appelait Jeanne Barré. Alors ils ont continué l'expédition. Alors là, il y a eu des débats, n'ont pu finir pour savoir s'il fallait pas débarquer la femme, parce que sur la marine royale, il n'y a pas de femme. La royale, il n'y a pas de femme. Il y a des femmes maintenant, mais il y a peu de temps. Ils sont arrivés à l'île Maurice. Là, ils ont rencontré le célèbre Poivre, qui était un Français aussi, qui avait été piqué le secret des épices. Il était bien nommé, Monsieur Poivre. Le secret des épices qu'il avait piqué aux Hollandais. Ils avaient découvert, ces poivres et ses compagnons, où poussait la fameuse muscade, qui était très, très prisé, très, très, très cher à l'époque. Très, très cher à l'époque.
La girofle aussi ?
La girofle aussi. Oui. Il a ramené, c'est venu des îles Moluques, c'est-à-dire de ce que sont actuellement les îles indonésiennes. Et alors, c'est intéressant cette histoire parce qu'on s'aperçoit qu'à l'époque, faire le tour du monde, c'était quelque chose d'extraordinairement rare. Et ceux qui l'avaient fait étaient des héros. C'était des grands aventuriers. Et maintenant, nous sommes passés à une deuxième aventure qui est l'aventure spatiale. Et il n'y a que 500 ans entre les deux. Ça prouve que le rythme de l'histoire s'accélère d'une manière prodigieuse et qu'on ne peut pas imaginer comment ça sort dans 500 ans. Ou bien on sera devenu très pauvre parce que nos civilisations se sera complètement effondré. Hypothèse que nous n'allons pas retenir parce qu'il ne faut pas être trop pessimiste pour nos sympathiques auditeurs. Ou bien alors on aura fait...
Bon, ça s'est produit quand même. Hein,
oui, ça s'est produit souvent. Oui. Ou bien on aura fait des progrès parce qu'on n'arrête pas le progrès. C'est bien, c'est le progrès qui nous arrête d'habitude. Oui. C'est le contraire qui se passe.
On aura fait des progrès en humanité peut-être, je ne sais pas, en sagesse, en...
Oui, 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 on aura fait des progrès peut-être, oui.
Merci beaucoup Jean-Marie pour ce voyage et puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
CO2, mon amour, Denis Chesson.
Se regarder toute la journée, rien à part d'autre qu'à s'aimer. Mon amour, endormi à moitié réveillé, de peur de trop nous manquer. Mon amour. Manipuler la réalité pour me continuer de rêver. Mon amour. Ne plus jamais se quitter, ça ne pouvait pas durer. J'aurais mieux fait de m'écouter, mais j'ai eu peur de m'avouer la vérité. Mon amour, c'est plus la peine, plus la peine. J'ai préféré me défiler. Mon amour, pardonne-moi si tu savais. Pour toi, j'aurais j'ai menti, je peux pas tout abandonner. À quoi ressemblerait ma vie si parce que je t'aime j'oubliais tout ce que je suis. Pour toi j'aurais voulu changer. J'ai menti, je peux pas tout abandonner.
Ah oui, c'est en deux coups. C'est comme ça, j'étais prévenu. Marie-Pierre Arthur, on aime beaucoup sur France Inter, choisi par Jean-Baptiste Audibert. Dans CO2, mon amour, on va parler donc deuxième sujet et important, c'est celui des ours blancs. Donc on va retrouver un homme que vous connaissez qui s'appelle Nicolas Hulot, qui a échappé aux crocodiles, aux chauds, aux froids, aux multinationales, aux scorpions et même aux vers, et aux ours. Ben, il nous raconte.
Moi, j'ai eu dans une expédition un ours qui est rentré dans une tente, qui a attaqué le chef d'expédition, qui était un Polonais, Janusz Kurbiel, et ça a failli se terminer tragiquement. Hein. C'est un animal, il faut pas jouer avec lui. C'est-à-dire, par exemple, là, ils avaient laissé du caribou dans la tente, c'était une erreur idiote, grossière pour des gens qui font des expéditions. L'ours est rentré, Kurbiel s'est réveillé avec le cou de l'ours qui était au-dessus de son duvet. Un des fusils qu'ils avaient été gelé, la graisse, elle n'avait pas été bien dégraissée, donc ne fonctionnait plus. Le temps de trouver le second, et il y avait deux ours plus des petits qui traînaient dans le camp, ça a failli se terminer en carnage. Il a fallu d'ailleurs en abattre un, ce qui est à mon avis, enfin c'est pas moi qui l'ai abattu, mais ce qui est toujours un échec dans une expédition, dans la mesure où on vient visiter comme ça un univers qui ne nous appartient pas, et où les ours sont souverains, c'est dommage d'en arriver là.
Alors aujourd'hui dans cette émission, c'est vrai qu'on parle régulièrement de biodiversité ordinaire, mais nous allons sacrifier donc à cet animal star, cette mascotte aussi des ours en peluche, alors que c'est quand même une bête assez solide, hein, c'est pas le genre câlin si vous voulez pour les enfants, parce que donc avec Rémi Marion a lieu le 22 et 23 octobre à 14h, le premier colloque sur l'ours polaire organisé par l'association Pôle Action à l'Institut Océanographique à Paris, c'est rue Saint-Jacques dans le 5e, avec la participation de la fondation Albert II. Alors Rémi Marion, je le rappelle, photographe, voyageur, conférencier, dernière nouvelle de l'ours. On parle de ce plus grand carnivore, hein, donc, qui est un féodé à la glace de mer, qui fait partie de la liste des espèces en danger. Votre amitié avec l'ours blanc remonte dans les années 90. Déjà, rappelez-nous quel est son territoire précis.
Alors l'ours polaire ne vit que dans l'Arctique, c'est-à-dire que dans les plus hautes latitudes, sous les plus hautes latitudes de notre hémisphère, mais à des latitudes parfois relativement au sud, on va dire jusqu'à 59-58 degrés, c'est-à-dire l'équivalent d'Oslo ou du nord de l'Écosse. Il est réparti donc sur un vaste territoire, hein. On considère que l'Arctique c'est environ 21 millions de kilomètres carrés, hein, donc ça fait très très grand, mais il n'y a que 22 ou 25 000 ours polaires sur tout ce territoire. Donc c'est un animal donc, qui a un vaste espace à occuper.
Et il en restait 6000 dans les années 70.
Tout à fait. Donc l'espèce a subi des grosses pertes uniquement liées à la chasse. Hein. D'ailleurs, la chasse intensive, soit des trappeurs dans les années 30, dans les années 20, même avant, il y avait eu aussi des grandes expéditions cynégétiques. Entre autres le duc d'Orléans qui a fait beaucoup de carnages dans le Grand Nord. Il y a eu aussi à une époque ce qu'on appelait la Dew Line, c'est-à-dire une ligne de radar au nord du Canada qui était là pendant la guerre froide et tous les fonctionnaires qui s'embêtaient un petit peu dans ces régions eh bien, voulaient ramener des peaux d'ours polaires à leurs épouses. Ils avaient des gros salaires et donc ils tuaient abondamment ou ils achetaient aux Inuits des peaux d'ours polaires. Ce qui fait que la population a très très rapidement décru.
Alors quelle est l'origine quand même de l'ours polaire? Quelle est sa parenté avec l'ours brun? Et puis j'allais presque dire quel âge a-t-il?
Alors l'ours polaire est une espèce relativement récente, hein. On peut vraiment l'isoler, je dirais, il y a à peu près 600 000 ans, donc c'est un très très proche cousin de l'ours brun, parce que les deux espèces peuvent s'hybrider et les hybrides sont fertiles. Donc ce sont vraiment deux cousins très très proches. On imagine qu'il y a un peu plus d'un million d'années, lors d'une grande glaciation, il y a un groupe d'ours bruns, qui n'étaient peut-être pas encore exactement des ours bruns, se retrouvaient isolés au sud de l'Alaska et qu'à partir de ce petit groupe, eh bien, ils se sont habitués par obligation à la chasse aux phoques sur la banquise.
D'accord, mais il y avait un postulat de départ qui disait en fait qu'il y avait une rapide acclimatation de l'ours brun au froid polaire jusqu'à devenir un ours de couleur banquise. Ça, c'est ce que... Alors, est-ce que c'est contredit parce que...
Non, ce n'est pas contredit. Alors, il y a eu récemment des publications, entre autres l'année dernière, qui ont fait grand bruit. Tout le monde s'accorde hein, pour dire qu'il y a à peu près un million d'années qu'il y a séparation, je dirais. Il y a une souche ours polaire qui commence à se faire jour, qui se distingue à peu près il y a 600 000 ans, sachant que le plus ancien une pièce osseuse d'ours polaire à 130 000 ans, donc ce qui est quand même très très récent. Par contre, l'année dernière, il y a des scientifiques qui ont étudié la génétique et qui ont essayé d'imaginer que l'essentiel des ours polaires actuellement vivants était d'origine irlandaise, oui. Liée à une femelle, entre autres, qui était porteuse des gènes de l'ours polaire et qui a redonné en fait naissance à une espèce qui aurait peut-être partiellement disparu donc il y a 25 000 ans. À cet exemple, moi je suis allé dans une grotte au nord de l'Écosse, où dans la même grotte, on a retrouvé un crâne d'ours brun, un crâne d'ours polaire et un crâne d'ours brun plus récent. Donc il y a effectivement eu, sur certaines zones, alternance des deux espèces.
Alors Rémi Marion, je suis un ours blanc. Je me pose la question, comment je fais pour ne pas avoir froid? Question classique, mais quand même. J'ai une peau qui est comment là sous mes petits poils blancs?
Alors la peau est noire, alors souvent on a dit que le poêle était transparent pour conduire la lumière et pour pouvoir chauffer. Ça s'était remis en question, il y a eu de nombreuses études là-dessus.
On va dire que comme le ferait un tube optique.
Voilà, c'est ça. Alors ouais. ça a été remis en question assez récemment. D'ailleurs, heureusement, maintenant il y a quand même un certain nombre de scientifiques, des biologistes, entre autres nord-américains et aussi scandinaves qui travaillent sur la question. Donc on a de plus en plus d'informations. Donc ça a été remis en cause. Je pense qu'il faut voir l'ours polaire aussi bien avec des adaptations physiologique hein, et aussi comportemental. Donc, il est sans cesse en train de se déplacer à 4 km/h de moyenne, ce qui lui permet d'optimiser ses réserves, de dépenser suffisamment d'énergie pour maintenir sa température corporelle. Mais il a aussi des zones très très particulières, par exemple au niveau des épaules, pour évacuer des calories. Parce que le gros problème de l'ours polaire, c'est un peu comme une bouteille thermos. Eh bien, il est très très isolé donc pour l'extérieur. Donc, il a commencé à avoir la chair de poule à moins 40 à peu près. Hein. Donc ça va, il a de la marge. Donc il est très très bien protégé, donc avec cette fourrure, avec de la graisse mais pas trop, avec cette dépense d'énergie. Donc c'est un ensemble. Et puis aussi ce comportement assez assez particulier qui le fait se déplacer très très souvent.
Alors ce que je vous propose, c'est de vous retrouver en compagnie de Stéphane Combe, notre assistant mais aussi reporter. On est sur la côte est du Groenland. C'était en septembre 2009 pour l'émission Autour du monde. Donc Stéphane Combe avec vous, Rémi Marion.
On va le faire ici, hein, Stéphane. Allez, on descend du Zodiac. Yop. Yop. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Rémi, exactement?
Bah, l'idée, c'est que quand on débarque dans un site où on risque d'avoir des ours, il faut leur faire lever le nez le plus loin possible.
Il y a potentiellement la possibilité qu'il y ait des ours ici.
Faible, faible, mais on ne sait jamais. Quand on débarque avec 50 passagers, il faut faire très attention. Toutes les Inuits mettent tout un tas de saleté dehors. Avant, tout était biodégradable chez les Inuits. Maintenant, il y a plein de saleté. Et donc, tout est mis dehors. Toi, l'herbe est très, très foulée, là. C'est pas trop ce que c'est là.
C'est-à-dire que oui, en effet, l'herbe est aplatie.
Yop.
Et ce... Oh bah tiens, je suis tombé dans un trou.
Qu'est-ce qu'un téléviseur qui reste en veille? Une arme redoutable. Une arme qui tue les ours polaires. C'est inouï ce qu'une télé, même en veille, peut produire de CO2. Et trop de CO2, ça tue les ours. Et vos enfants, ils aiment les ours. Et puis ça vous coûte de l'argent toutes les nuits.
Éteignez vraiment votre télévision.
Yep.
Préservez votre argent, préservez votre planète.
Yep.
Ce petit cri que tu fais, s'il y a des ours, ils les entendent.
Ça résonne, hein. On l'entend bien d'ailleurs, hein. Ça résonne. Et tu vois, sous des maisons comme ça, ici, il y a plein de saleté.
Ouais.
Les mousses, là, tu vois, par exemple, les mousses anciennes, là, des matelas, on voit bien qu'elles ont été grattées, mâchouillées. Et tout ça, et les mousses comme ça humides, les ours ils adorent ça.
Et tu penses que là, il y a un ours polaire qui s'est baladé sous,
oui,
sous la maison?
Il y a peut-être quelques jours, quelques semaines, difficile à savoir. On va monter au point le plus haut comme on fait toujours. Moi je reste souvent en faction pour vérifier la zone. Puis comme ça permet le débarquement de tout le monde dans la meilleure sécurité possible. Même si le danger est limité. La semaine dernière, quand on est passé à Tassilac, ils nous ont dit qu'ils avaient tué un ours il n'y a pas longtemps. Donc ça veut dire qu'il y en a un.
Alors du reste, tu as un fusil à la main.
Ben, le fusil, c'est pas un fusil seulement pour dissuader. Hein. C'est si on a besoin, si on surprend un ours, mais il faut pouvoir s'en servir. Mais c'est pas du tout dans nos intentions de risquer de blesser ou de tuer un ours. Quoi.
Regarde là, au fond du fjord, où il y a les petites maisons, c'est splendide. Alors, c'est vraiment un tout petit fjord, on va dire une crique. Et il y a en fait un gros iceberg qui s'est mis au milieu. Là, tu regardes avec tes jumelles.
Ouais, toujours, hein, parce que là on arrive, parce que les ours ils aiment surtout, enfin, c'est être surpris. Oui, Steph.
Ok, parfait, moi je reste ici en faction comme l'autre fois. J'ai mon sifflet au cas où il y a des gens qui dépassent la limite, on pourra les rappeler à l'ordre cette fois-là. On va encore monter un petit étage au-dessus.
Et on va monter pour avoir une vue à 360 degrés.
Oui, c'est ça, le plus large possible.
Bon, là, on est au sommet de la colline. On surplombe le village. On surplombe la baie. Comment ?
Et là, on donne un bon coup de jumelle. C'est extraordinaire, hein ?
Le paysage qu'on a en face de nous.
Le paysage est extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de voir tout un tas de paysages polaires, mais là, ce soir, on a vraiment une chance incroyable, parce qu'il y a ces mélanges de couleurs, et puis tous ces bleus et tout ça, là, devant nous, au milieu de la baie, là-bas, il y a un iceberg qui ressemble à une espèce de gros champignon. Il est verdâtre, transparent, enfin, opalescent, c'est absolument incroyable. Et puis, quand on remonte le fjord de Sermilik, hein, sur 80 km, ça va se densifier encore. Hein. Donc,
il va y avoir de plus en plus d'icebergs.
De plus en plus d'icebergs et des plus gros. Hein. Il y en a
ils sont déjà pas mal, ceux-là. Hein.
Le bateau était obligé de bouger, d'ailleurs, parce qu'il y avait l'iceberg qui commençait à le menacer, là. Et il est évident qu'une collision est absolument improbable avec ce genre de masse. C'est gigantesque. Quoi. Il fait 35 mètres de haut. On peut imaginer que dessous, il y a 150 mètres de glace dans l'eau. Quoi. Donc, c'est un monstre. Hein.
Stéphane Côme et Rémi Marion, non loin du cercle polaire, et on imagine bien que ce reportage ne pourrait pas du tout avoir lieu en Antarctique.
Tout à fait, parce que bien l'ours polaire est inféodé vraiment à l'Arctique. L'Arctique, ça vient de Arctos en grec, qui veut dire l'ours. Donc ça permet de se rappeler qu'il n'y a pas d'ours en Antarctique. Et en plus, bon, on m'a souvent posé la question, est-ce qu'on pourrait envoyer des ours polaires en Antarctique? Il ferait bombance pendant un mois et demi pendant l'été en mangeant énormément de manchots. Et puis après, ce serait fini pour lui. Et puis en plus, le rythme de la banquise n'est pas du tout le même en Antarctique que dans l'Arctique. Donc il n'est pas du tout fait pour aller vivre là-bas.
Le régime alimentaire de notre ours blanc, c'est du phoque principalement?
Tout à fait, l'ours polaire, c'est 98% de son alimentation, c'est phoque. Du phoque de différentes espèces, hein, phoque du Groenland, phoque marbré, phoque barbu, suivant les saisons, suivant les endroits. Et phoque qu'il ne peut chasser que sur la banquise. Donc ça veut dire que le cycle de l'ours polaire est parfaitement calqué sur celui de la glace de mer. Tant qu'il y a de la glace de mer, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin, juillet, suivant les endroits, eh bien, il va se nourrir. Et puis, une fois qu'il n'y a plus de glace, eh bien, en règle générale, eh bien, il va rejoindre la côte ou les îlots avoisinant, et il va jeûner, donc s'économiser un petit peu comme hiberner, mais pendant l'été, du mois de juillet jusqu'au mois de novembre, pour l'essentiel de la population.
Donc a priori, il n'aime pas l'homme, c'est comme le requin qui n'aime pas l'homme, surtout quand il porte du néoprène, mais donc vaut mieux l'avoir en tête. Les techniques de chasse, on a vu, moi j'ai vu dans votre superbe bouquin, donc dernière nouvelle de l'ours polaire, on le voit en train de guetter près d'un trou de respiration, donc le phoque, il peut attendre des heures là.
Ah oui, c'est d'une grande patience l'ours polaire, hein, donc il peut passer des heures, j'ai vu des femelles entre autres avec des jeunes qui attendaient des heures près des trous, et puis souvent bredouille d'ailleurs, hein. Un ours polaire ne consomme à peu près qu'une soixantaine de phoques par an, donc il faut passer énormément de temps à chasser, à se déplacer, et ce qui fait que l'ours polaire n'a pas vraiment de territoire, il est sans cesse en train de se déplacer.
Ah oui, c'est pas un animal territorial donc.
Voilà, il n'a pas de territoire à défendre, mais par contre il est sans cesse en train de se déplacer, les Inuits l'appellent l'éternel errant, hein, donc c'est bien, c'est bien vu.
Il a une autre technique aussi, c'est de se jeter ou de poser son poids sur un igloo de neige où il peut y avoir des phoques à l'intérieur.
Ça, c'est une autre technique qui est donc liée aux naissances des phoques marbrés. Les femelles de phoques marbrés font leurs petits sous la neige, avec un accès sous la banquise. Et l'ours doit détecter sous la neige la présence d'un jeune phoque. Et il doit effondrer cette igloo, cette grotte de neige, pour essayer de l'attraper. Donc il doit le faire très très vite, sinon le phoque s'échappe par le trou qui l'entraîne dans la mer.
Et Jean-Baptiste Olivier, notre programmateur, n'a pas résisté, il a bien raison. Voici Charles Élie Couture, toujours sur France Inter, au pays des ours blancs avec Rémi Marion.
Dans la poussière, dans la lumière, dans le nitrate, dans les rivières, dans le poisson sorti de la mer, dans le fruit en hiver, dans le container sur le quai, dans la richesse accumulée, dans l'opinion manipulée, dans la charge supportée, abondance à outrance, trop de tout d'un côté,
pénurie et carence, trop de rien de l'autre côté. Nous sommes tous des ours blancs. Nous sommes tous des ours blancs. Tant de produits fabriqués, tant d'inventions dépassées, tant d'animaux empaillés, tant de gorilles dépecés, tant de grands arbres abattus, pâte à papier qu'on ne lit plus, tant de gâchis dans les poubelles, tant de caprices existentiels, abondance à outrance, trop de tout d'un côté, pénurie et carence, trop de rien de l'autre côté. Nous sommes tous des ours blancs. Nous sommes tous des ours blancs. À l'école, c'est logique, l'écologie faudrait l'enseigner. De ceux qui retournent la terre, de l'autre la loi des marchés et l'utopie de l'égalité. Ah, les grands mots brandis comme des étendards, fraternité, égalité, solidarité, si seulement on pouvait y croire. Abondance à outrance, trop de tout d'un côté, pénurie et carence, trop de rien de l'autre côté. On préfère le nier, peindre l'ignorer, trop d'excès d'un côté, l'autre pas assez. Nous sommes tous des ours blancs.
Oui, nous sommes tous des ours blancs. C'était bien sûr Charlie Couture sur France Inter. C'est Haut de mon amour avec vous, Rémi Marion. Je suis une maman. Comment je fais pour éduquer mes petits? Comment ça se passe? D'abord, est-ce que j'en ai beaucoup?
Alors déjà, on se débrouille toute seule, déjà. C'est une première chose. Et puis, les femelles, en général, ont deux à trois jeunes. Souvent, quand elles sortent de la tanière, elles n'en ont que deux. Les petits sont nés au mois de décembre. Ils pesaient que 800 grammes. Mmh. Trois mois plus tard, ils font 12 kilos.
Oui, bien.
Et puis, ils bougent bien, déjà. Et il faut leur apprendre. Il faut leur apprendre beaucoup de choses. Donc, ce qui fait que la femelle va prendre 2 ans pour les éduquer. Et donc, 2 ans à parcourir la glace, à essayer de chasser, à essayer de se protéger du vent, du froid, enfin, tout ce qu'il y a dans le Grand Nord. Donc, c'est une éducation souvent assez dure. Les mères peuvent être très douces, mais aussi assez violentes, parfois avec les oursons, je l'ai vu.
Ouais. Oui, afin de ne pas nous faire rater une sortie de chasse, par exemple.
Par exemple, oui. Donc, il faut bien qu'ils comprennent les ordres. La femelle, souvent, on leur donne des petits chuintements, des petits sifflements pour les prévenir de ce qu'il faut qu'ils fassent. Et elle est assez autoritaire.
Avant de rejoindre vos amis là par téléphone, est-ce qu'il hiberne ou non cet animal?
Alors, en fait, les ours n'hibernent pas. Ils vont plutôt diminuer leur métabolisme pendant l'été, donc quand ils n'ont pas de nourriture, sauf les femelles qui sont gravides, donc qui vont avoir des petits, et qui vont se mettre dans une tanière au mois d'octobre, et qui en sortiront fin février, début mars. Mais elles peuvent se réveiller n'importe quand, n'importe comment.
Alors nous allons toujours dans le Grand Nord canadien, on va rejoindre Éric Brossier, qui participera d'ailleurs aussi donc, à ce colloque, propriétaire d'un voilier qui s'appelle le Vagabond. C'est un vagabond donc, qui résiste à la glace, c'est un peu un mini Tara, si vous voulez, et qui se fait bloquer par les glaces. Et dans ces moments-là, il y a des scientifiques que vous rejoignent, vivent avec vous et font des études. Mais tout de suite, Éric Brossier, dites-nous, où est Grisfjord?
Grisfjord, c'est tout à fait au nord de l'Arctique canadien. C'est le village le plus haut, le plus isolé, le plus petit, il paraît le plus froid aussi de l'Amérique, en fait.
Alors racontez-nous, votre fréquentation avec les ours blancs, comment ça se passe?
C'est sûr qu'on est sur leur territoire. L'ours blanc, c'est le symbole, c'est le seigneur de l'Arctique, c'est le plus gros animal C'est un animal fascinant, impressionnant, mais la cohabitation, on a appris à bien la vivre, à bien la gérer, et aujourd'hui ça se passe très bien. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de tirer des tonnes de pétards, de fusées pour les dissuader. On les laisse assouvir leur curiosité, parce que c'est surtout de ça qu'il s'agit. C'est pas de l'agression, c'est pas des attaques. On n'en a jamais vraiment vu. Hein. Parfois, on trouve des individus un peu plus excités que d'autres, mais c'est le plus souvent tout simplement de la curiosité. Et il suffit de rappeler que, bon, voilà, ici, c'est chez nous. Et bon, on a quelques chiens qui veillent sur le camp et tout se passe très bien. Et c'est magnifique d'observer ces animaux dans leur élément.
Quelles sont les idées reçues qu'il faudrait chasser sur les ours blancs et peut-être la cohabitation avec les hommes ?
Bon, au bout d'une douzaine d'années de cohabitation avec les ours, on n'a pas la capacité de valider ce qu'on lit dans la presse, c'est-à-dire que l'ours est un animal complètement en danger. C'est sûr que son habitat est en grande mutation, mais l'ours est capable d'adaptation comme l'homme. À titre d'exemple, autour de Grisfjord, ils ont des quotas de chasse, les chasseurs, qui augmentent. C'est-à-dire, avec le travail des scientifiques, tous les deux ou trois ans, les populations sont vérifiées. Enfin, on regarde l'état de chaque groupe, on regarde son évolution, la santé, et les quotas, finalement, augmentent, tout simplement parce que la population augmente dans certaines régions. Mais les quotas n'augmentent pas suffisamment, ce qui fait que les Inuits ont un peu peur aux alentours du village, plus que quand ils étaient gamins. Ils ont peur pour leurs enfants aujourd'hui parce qu'il y a plus d'ours, il y a plus d'ours qu'autrefois. Et donc les enfants, il ne faut pas qu'ils se promènent à côté du village. Si les Inuits vont chasser loin du village, ils vont voir davantage d'ours que dans les environs du village. Donc il n'y a pas un phénomène marqué d'attraction des ours par les villages qui sont très isolés. Hein. L'ours est quand même chez lui, les Inuits sont peu nombreux compte tenu de la surface de leur territoire. C'est ce genre d'impression qu'on peut déjà partager.
Éric Brossier, avec votre bateau, vous êtes bloqué combien de temps par la glace ?
Les hivers sont longs puisque l'embâcle c'est maintenant, début octobre, et la débâcle c'est juillet, donc ça fait des hivers de 9 mois.
Ça va lui faire du bien, Éric Brossier, de vous rejoindre pour votre fameux colloque lundi et mardi à Paris. La femelle fait à peu près 300 kilos, le mâle on va dire 500, le mâle reproducteur. Donc ça fait de jolies peaux d'ours quand même. Alors la chasse à l'ours, où en est-on ?
Alors, il n'y a que les autochtones qui ont le droit de chasser, donc avec des quotas, comme le disait Eric, donc des quotas qui sont déterminés entre les associations de chasse et les scientifiques. Ils ont aussi le droit de vendre un certain nombre de droits de chasse à des occidentaux, à des américains, à des français. Et c'était quelque chose d'assez nouveau qui a été au milieu des années 80, qui s'est mis en place au niveau des années 80, quand la peau de phoque a brutalement chuté et que les Inuits ne pouvaient plus vivre de la vente de la peau de phoque. Je dirais des noms.
Brigitte Bardot, on a compris.
Voilà. Le problème, c'est qu'il a fallu bien qu'ils gagnent leur vie, parce que c'est bien d'être un activiste pour protéger des espèces animales, mais il faut voir aussi qu'il y a des gens qui en vivent. Et quand on n'a pas l'autre choix que de vivre de la chasse, eh bien, on se reporte sur l'ours polaire. Et donc, ce qui fait que les Inuits.
Pour vous, on a déplacé un problème pour en créer un autre.
Pour moi, il y a des études sociologiques et économiques extrêmement précises qui démontrent que les Inuits ont vendu des droits de chasse à des Occidentaux pour compenser la perte de ce que pouvaient leur apporter les phoques. Mmh. Et maintenant, on leur demande aux Inuits d'arrêter totalement la chasse. Et c'est ce qui est très compliqué d'ailleurs pour le Canada, parce que le Canada doit trancher entre les écologistes, les scientifiques et les autochtones qui ont besoin aussi de vivre dans ces régions.
Alors, j'ai vu qu'aux États-Unis, en fait, on essayait de protéger depuis 2008. En même temps, c'est ça qui est assez fou, parce que ça va nous amener évidemment à parler du réchauffement climatique. Les États-Unis, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre dans le monde, donc le plus gros réchauffeur du monde, qui fait fondre indirectement ou directement, on va dire, la banquise, et qui en même temps va être en pointe dans le combat pour sauver les ours blancs, pour ne pas les chasser.
Oui, c'est vraiment la quadrature du cercle, et le gouvernement canadien a vraiment des soucis, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de Canadiens et des Inuits qui viennent nous voir lundi et mardi, parce que justement, il faut qu'ils s'expriment par rapport à ça, parce que c'est très très compliqué. Si l'ours devient totalement protégé, eh bien plus aucun droit de chasse ne sera valide, et ce qui fait qu'ils devront arrêter à nouveau et changer à nouveau de mode de vie, mais on ne peut pas changer comme ça indéfiniment dans ces régions. Donc il faut tenir compte de tout le monde, et je pense que c'est un bel exemple. Si on arrive à se sortir de cet exemple de l'ours polaire, eh bien ce sera bien si on arrive à protéger aussi bien l'ours polaire que la vie des autochtones.
Nous parlons de la chasse. Dans les autres ennemis, il y a les polluants chimiques, hein, parce qu'en fait, l'ours blanc est au sommet de la chaîne alimentaire, donc il se fixe après sur ses graisses. Et puis, alors, le réchauffement. Maintenant, où en est-on ? Est-ce que cet animal, on va dire, est un cul-de-sac évolutif, parce que un, il vit sur l'Arctique qui est en train de fondre, et très spécialisé dans la chasse aux phoques. Donc ça va être quoi demain ?
Oui, donc pour vivre dans le Grand Nord et vivre de la sur la banquise et que du phoque, l'ours a dû s'adapter et effectivement c'est un cul-de-sac évolutif. Donc ça devient, c'est un animal extrêmement spécialisé, donc qui va répondre très très rapidement au stress lié à la banquise, à la dislocation précoce de la banquise. Et comme le disait aussi Eric, hein, lui qui est un grand grand témoin aussi de la vie des ours, eh bien il y a des zones où ça va pas mal et puis il y a des zones où ça va pas bien. Entre autres la baie d'Hudson, moi que je fréquente abondamment depuis 22 ans, le maire de Beaufort aussi au nord de l'Alaska, eh bien ces populations ont diminué d'une vingtaine de pourcents ces 30 à 40 dernières années.
C'est la fameuse ville où il y a Churchill, c'est
voilà,
ça
Churchill, ouais. Où je passe plus d'un mois par an depuis plus de 20 ans. Donc dans cette ville, eh bien la glace se disloque plus tôt et donc ça fait une période de jeûne donc de plus en plus longue. Et ce que l'on constate, c'est que on ne voit pas d'animaux faméliques, mais on voit que le poids moyen des individus diminue, et en particulier celui des femelles. Et comme les femelles dans cette région doivent jeûner pendant 8 mois, si elles n'ont pas assez de réserves, on sait qu'en dessous d'un minimum de 190 kilos, eh bien, ne pourront plus se reproduire.
Donc, ça s'appelle un effet de seuil, là.
Voilà, c'est exactement comme s'il y a raté une marche. Hein. En fait, la population s'écroule brutalement parce qu'il n'y a plus de reproduction. Et c'est vraiment ça le danger. Donc actuellement, la population, on ne peut pas dire que dans l'absolu, elle soit vraiment en danger de disparition. Mais par contre, d'ici 30 ans, 40 ans, eh bien, peut-être qu'on aura perdu 60% de la population.
D'où le raccourci qu'on a entendu de Fabrice Lucchini avec ce message de l'ADEME.
Tout à fait, mais c'est maintenant aussi qu'il faut essayer de changer nos modes de vie, de consommation. Et c'est comme ça qu'on peut essayer de faire.
Le climat réagit lentement, on le rappelle. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, on peut prédire aussi un métissage des espèces, c'est-à-dire que d'avoir des l'ours brun, l'ours blanc, qui peut devenir ours brun, ours blanc, le croisement entre les deux, le grizzly va remonter plus vers le nord, et puis notre ours blanc va aller davantage sur la terre, ils vont se croiser sans passer par mythique.
Oui, tout à fait, mais c'est tout à fait ça, c'est surtout les femelles ours polaires qui rencontrent des mâles d'ours brun d'ailleurs, et donc évidemment ça fait des hybrides. Alors bon, est-ce que c'est un épiphénomène, est-ce que ça va se répéter de plus en plus, c'est très compliqué à imaginer. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, il y a des espèces presque invasives dans l'Arctique et qui risquent de poser aussi des soucis peut-être aux ours polaires. Il y a les orques qui sont de plus en plus fréquents dans l'Arctique, on en parle peu, mais ils remontent vraiment maintenant très très haut au nord et ils suivent les bandes de poissons, de phoques éventuellement. Et donc ça va devenir un concurrent assez sérieux pour l'ours polaire aussi.
Et puis un jour, on pourra peut-être voir la baleine du Groenland et la baleine franche du Biscay. Il y en a très très peu, je crois qu'il y en a moins de 200 aujourd'hui, qui pourraient s'accoupler parce que les deux eaux pourront se mêler un jour.
Oui, tout est en rapide évolution et ce qui fait qu'aussi une espèce comme l'ours polaire, qui est très spécialisée, a beaucoup de mal à s'adapter à d'autres moyens d'alimentation en particulier.
Alors donc je vous renvoie à ce colloque. Merci Rémi Marion de nous avoir donc éduqués, comme la maman avec ses petits, sur l'ours blanc. Premier colloque sur l'ours polaire organisé donc par l'association Pôle Action. Votre ouvrage « Dernière nouvelle de l'ours polaire », c'est une véritable merveille avec Rémi Marion, donc photographe. Votre colloque c'est lundi et mardi, c'est au...
195.
Voilà,
Saint-Jacques.
Cherchez dans, c'est ça,
dans le cinquième.
C'est ça, Saint-Jacques, pas comme la coquille, mais comme Saint-Jacques. Vous connaissez Jean-Louis Fournier ?
Oui.
Oh, bah vous restez avec nous, ça va être un grand bonheur.
Ceux de mon amour, c'est ces petites émissions qui respirent sur France Inter.
Denis Chessoux.
Oui, c'est le troisième volet donc, de cette émission avec Jean-Louis Fournier, auteur facétieux, grammaire française et impertinente. Où on va, mon papa, qui est un très beau succès, veuf aussi, qu'il a sorti, qui est au Théâtre du Rond-Point en ce moment, que vous retrouvez d'ailleurs chez Rebecca Manzoni le dimanche 28 octobre, là, pour une heure complète dans Éclectique, donc chez Rebecca. Et je l'ai rencontré chez lui avec ce nouvel ouvrage. Et vous allez comprendre.
Bonjour Monsieur Chessoux.
Cher Monsieur Fournier, le ours blanc, il y en a pas ici chez vous, donc.
J'aime bien les ours blancs, mais c'est salissant.
Jean-Louis Fournier, là entre les mains, j'ai donc un ouvrage qui s'appelle Samagas aux éditions Anne Carrière. Et alors, ce sont toutes petites sortes d'agacements hein, que vous avez, et on va essayer de pointer un peu ceux qui ont quand même un rapport avec notre émission, c'est-à-dire l'environnement, l'écologie.
Je n'ai pas oublié les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi.
C'est la période délicieuse des feuilles mortes, si chères donc à Prévert et à Cosma.
Ah oui, alors là, vraie connerie, là. Avant, les feuilles mortes se ramassaient à l'appel, les regrets aussi. Maintenant, il y a une espèce de crétin hein, qui a inventé un moteur que les gars se foutent dans le dos et puis... Mais en réalité, ça ne ramasse pas du tout.
les feuilles, ça les souffle partout, ça fait un bruit absolument inimaginable dans des jardins publics. En plus, c'est complètement inutile. Moi, j'ai regardé la fois un gars qui travaillait, c'est censé être un aspirateur à fil. Apparemment, ça n'aspire pas du tout les feuilles.
Ça les souffle pour les tasser.
Ça les balade comme ça. C'est une vraie connerie.
Alors, pour vous mettre aussi de bonne humeur, je vois que vous avez une petite tirade sur les scooters des mers. Vous n'êtes pas très copain avec ça.
Le scooter des mers, ça, c'est le top. Alors, ça, vraiment, de penser qu'on va s'asseoir au bord de la mer parce qu'on veut entendre le calme. Et oui. Puis, je pense à toutes les crevettes qui font la sieste, aux dorades, aux jolis maquereaux, tout ça. Tout ce monde qui est dans la mer, bien tranquille. Et il y a une espèce de crétin qui vient au-dessus. Avec sa moto puante pour tourner en rond, parce que finalement il va nulle part. Un moyen de locomotion, il a au moins une raison d'être, c'est-à-dire il nous mène à un endroit où on a envie d'aller. Le mec qui fait du scooter des mers, il fait des ronds sur la mer, quoi. Le gars qui a inventé le scooter des mers est effectivement un malfaiteur de l'humanité.
Oui. Alors, on va rester peut-être aussi dans le domaine animalier que vous aimez bien. Bah, attendez, on a votre chat. Elle est très bien. Elle s'appelle comment, ça?
Salomé.
Ah oui.
Elle est adorable. C'est une allumeuse. Hein.
On va parler justement des documentaires animaliers. Alors, je ne sais pas si vous avez des insomnies vers 3 heures du matin, mais vous les regardez assez souvent.
Oh oui, la parade nuptiale des flamands et tout ça, ça va jusque-là. Puis je me suis mis à penser que quand même les photographes sont vachement indiscrets avec les bêtes. Dès qu'on photographie une princesse de Monaco ou Carla Bruni et tout ça, ils ont des procès aux fesses et tout ça, et ils vont impunément photographier un éléphant en train de pisser derrière un baobab, un singe qui se gratte, le nid des oiseaux qui dorment. Et puis, ils font ça comme ça, mais c'est la vie intime des animaux. Ils devraient demander l'autorisation.
Le paparazzo d'oiseaux travaille en toute impunité, il ne craint rien. Les animaux ne sont pas comme les princesses de Monaco. Les oiseaux n'ont pas d'avocat. Voilà, vous êtes un très bon défenseur.
Je crois que c'est le problème, c'est que si les oiseaux avaient des avocats, si tous les animaux avaient des avocats, je peux vous dire que les paparazzo d'oiseaux, ils feraient gaffe.
On va rester au bord de la mer. Ça, c'est fabuleux parce qu'on regarde la mer, là on l'entend en train de chanter. Il y a la marée haute, et puis bien sûr après, on a une superbe marée basse sur l'Atlantique. Et là ?
Ah bah le promoteur qui voit tout d'un coup la plage à marée basse, il a des idées de béton qui lui poussent dans la tête. Il se dit, mon Dieu, toute cette place, on peut construire des cochonneries sur toute la place. On va, comme on dit le mot, on va gagner sur la mer. Et puis voilà, et puis il bétonne. Puis à force de gagner sur la mer, on perd la mer.
Et puis toujours pour continuer dans les petits agacements écologiques avec vous et ce livre « Ça m'agace », les moteurs qui tournent à l'arrêt, un vrai délice.
Non, ça c'est hallucinant. Alors j'ai trouvé une astuce, c'est au lieu de leur dire, vous savez, vous êtes en train de pourrir la terre, hein, les poumons des petits oiseaux, les poumons des petits enfants, les poumons à tout le monde, puis l'odeur, pourquoi vous arrêtez pas votre moteur? Ça, je crois ça n'était pas... Mais alors, j'ai trouvé une astuce, j'aurais dit, vous savez, c'est très mauvais de laisser un moteur tourner à l'arrêt. Parce que vous faites du mal à votre moteur. Parce que le moteur, et d'ailleurs, ce n'est pas totalement faux, le moteur chauffe, évidemment, il n'est pas refroidi, vu qu'il n'y a pas d'air.
C'est ça que vous avez pris par les sentiments de la mécanique.
Son amour de son moteur. Je savais qu'ils adorent, leur moteur. Alors, si je leur dis, en faisant ça, vous faites du tort à votre moteur, alors là, en général, ils arrêtent. Si je dis, vous faites du tort aux enfants, aux oiseaux, au ciel, tout ça, ça, ils n'en ont rien à cirer. Mais alors, abîmer leur moteur...
Vous les avez pris, évidemment, avec le petit coin sensible. Quand même, dans les bonnes nouvelles, je vous rassure, j'ai vu ça en Alsace, à Strasbourg, entre autres, vous avez des panneaux qui indiquent bien aux chauffeurs de car qu'ils doivent éteindre leur moteur quand ils sont à l'arrêt. Ils le font, mais c'est vrai que c'est un peuple qui est assez discipliné pour cela.
Mais ce qui est quand même terrifiant, c'est qu'on doive le demander,
oui.
qu'il faille mettre des panneaux.
Oui. Jean-Louis, comment vous réagissez à ce mot d'écologie?
Si vous voulez, j'ai envie de vous dire que je suis évidemment pour l'écologie, je trouve que c'est capital. Il ne faut pas non plus tomber dans une sorte de terrorisme qui me fait aussi peur. Moi, j'ai fait un bouquin, par exemple, sur la dernière cigarette, et je me suis un petit peu, les campagnes anti-tabac, oui. Un peu excessives. Parce que d'abord, la pollution d'une cigarette, malgré tout, est paraît un petit peu anecdotique par rapport à la pollution des pots d'échappement. Il y a vraiment des... C'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que hier, je voyais, par exemple, une fille dans le métro avec un masque sur le nez, vous savez, comme les médecins de Venise quand il y avait la peste. Là, j'ai envie de rigoler un peu, quand même.
Jean-Louis Fournier, on va se quitter, puis c'est un petit peu quand même la fin de l'émission. Que peut-on vous souhaiter, au-delà du succès de Samagas?
Je voudrais vraiment une chose, je voudrais qu'il y ait des coquelicots à nouveau dans les champs.
Ah oui.
J'ai le souvenir, quand j'étais gosse, il y avait des coquelicots dans les champs, et c'était vraiment extraordinaire. Heureusement que Monet
les a pas avant,
ça,
oui.
En a gardé, parce qu'on ne met pas de pesticides sur les tableaux.
Voilà. La suite dans Samagas, donc aux éditions Anne Carrière, avec Jean-Louis Fournier. Petite exception pour les scouteurs des mers, évidemment, lorsque l'on est secouriste et que l'on vient chercher quelqu'un dans la mer. Là, c'est parfaitement utile. Et vous le retrouvez donc chez Rebecca Manzoni, ce sera dimanche 28, donc pas demain, mais donc la semaine prochaine dans Éclectique. Alors que vous dire? Dans notre petite actualité, ah oui, on a le temps, c'est très bien. Donc Rémi Marion, donc, vous pouvez encore venir le lundi 22 et 23 donc à l'Institut Océanographique à Paris pour le colloque sur l'ours blanc. Si vous êtes dans la région de Fort-Calquier, c'est très beau, les Alpes de Haute-Provence, les fours à chaud Fort-Calquier, eh bien vous avez les rencontres de l'alimentation bio. Vous retrouverez Jean-Marie Pelt, Pierre Rabhi, Claude Aubert, les couples bourguignon, donc sous la houlette inspirée de Philippe Courbon, donc écologie et santé, les rencontres de l'alimentation bio à Fort-Calquier ce week-end. Et puis comme c'est une semaine, si vous voulez, pour faire des économies d'énergie, bah écoutez ce message qui nous vient d'Eliante du département de l'Ain.
Bonjour Denis, je suis Marie-Alexandre, la directrice d'Eliante, l'espace information énergie de l'Ain. Je voulais vous parler du défi famille à énergie positive que les espaces information énergie organisent en Rhône-Alpes. C'est une manière sympa et très concrète de réaliser des économies d'énergie dans son logement. Le principe est simple. Vous formez une équipe avec d'autres familles, entre voisins, entre collègues de travail, et ensemble, vous faites le pari de réduire d'au moins 8% vos consommations d'énergie, simplement en changeant vos comportements. Tout au long du défi, qui se déroule de décembre à avril, nous vous proposerons de participer à des événements conviviaux pour échanger des trucs et astuces avec les autres participants. Le défi se terminera en mai 2013 avec la présentation des résultats et le palmarès des meilleures équipes. Depuis 2008, grâce aux familles énergie positive, ce sont près de 9 millions de kilowattheures qui ont été économisés, soit l'équivalent de la consommation énergétique annuelle de 485 foyers. Nous avons pu mesurer que les familles réalisent une économie moyenne de 200 euros sur leur facture d'énergie. Vous trouverez toutes nos coordonnées sur le site de Famille Énergie Positive. Et puis, il vous suffit de cliquer ensuite sur votre territoire. Nous vous attendons nombreux pour relever le défi.
Ah oui, parce que ça se passe, merci à vous, ça se passe dans toute la France. Bien sûr, la région Rhône-Alpes est aussi en pointe dans ce domaine. Donc là, c'était un exemple parmi d'autres, mais il est tout à fait significatif. Si vous avez un petit peu de temps, vous pourrez aussi aller voir le film Arti, qui se trouve à la Géode, toujours à Paris. Bah oui, je suis désolé, comme ça. Donc l'article Au fil des saisons de Greg Mag Gillifrey, qui est très très bien également. Allez. Ah oui. Ah oui, je connais ce générique. Oui, tout ça pour vous dire que la semaine prochaine, je vous emmènerai sûrement dans la vallée de Chaudefour. Vous ne connaissez pas la vallée de Chaudefour? Mais si vous êtes auvergnat, vous connaissez. Mais les autres, vous verrez. On va se faire une jolie petite balade. Il y aura l'actualité avec Nathalie Fontrelle, il y aura Jean-Marie Pelt. Merci à Pauline Laverdure et Pierrick Monsigny aujourd'hui, à Stéphane Combe, encore glacé, Christophe Imbert, plein de chaleur, notre réalisateur. Jean-Baptiste Olibert a choisi les disques. Anne Gouzon a nourri les sites de CO2 Mon Amour. Possibilité alors pour vous de réagir sur le site, vous le savez, c'est tout à fait interactif, donc ne vous gênez pas. Les mails, possibilité de réécouter pendant 4 semaines. Et puis je vous retrouve pas plus tard que demain, 19h54. Ce sera juste après les petits bateaux. Pub.